Alors moi j'ai une question parce que je voyais pas très bien les trucs. Est-ce que ce que tu as proposé comme, comme extrait de BD, c'était écrit par des hommes ou par des femmes? Ou les deux? Les deux. Les deux. Ok.
Les deux, Le Renard et Punk Rock Jesus sont dessinés et scénarisés par des hommes, et la BD là, un peu underground, ça, c'est une créatrice féminine.
D'accord. Parce que voilà, moi je me posais la question de savoir si dans la BD, alors à mon avis, il faut plus effectivement chercher dans l'indé, indé produite par des femmes, on assistait aussi à voilà à cette espèce de reproduction des images clichés féminines ou est-ce que c'était plutôt du côté des créateurs hommes que cette reproduction se manifestait?
Avec le tout petit corpus que j'ai étudié, j'ai plutôt l'impression qu'effectivement dans la ces clichés se retrouvent davantage chez les hommes, mais je suis pas sûre que le peu de BD que j'ai parcouru pour cette conférence, parce qu'à vrai dire, j'ai pas trouvé beaucoup de représentations de femmes punk dans la BD. Mmh. Je suis pas sûre que ça soit que mon corpus soit assez important pour avoir des affirmations péremptoires. D'accord. Sur la question.
Parce que ce serait, à mon avis, intéressant à creuser si ça se fait dans les deux sens, parce que ça induirait des choses aussi. Mmh. Et donc là, c'est que des BD françaises, on est d'accord?
Non, Punk Rock Jesus, c'est un comique américain. Le Renard, c'est de la BD française. Les illustrations sur le blog de Johan Trojanowski, c'est français. Et ça, c'est français aussi.
D'accord. Alors, je n'y connais rien en BD, mais j'ai vu passer quelque chose qui s'appelait Locas, qui, je ne sais pas si tu connais.
Non.
Non. À mon avis, je ne l'ai pas lu, donc c'est dommage. Mais c'est un auteur. Quelqu'un connaît? Peut-être tu peux. Enfin, je sais pas si t'as. Tu peux.
C'est pas très très bien, mais c'est un auteur américain, même, qui a des origines d'Amérique du Sud. Et qui, du coup, ben, ouais, c'est l'histoire de deux filles punk latina. Ça se suit sur plusieurs tomes, et ouais, c'est plutôt pas mal.
C'est plutôt pas mal. Après, je sais pas si c'est féministe à proprement parler. Moi, j'ai du mal à mettre cet adjectif sur quelque chose d'artistique. Je sais quand c'est pas féministe, mais quand c'est féministe, j'ai du mal à le dire. Mais
peut-être, ouais, pour ton corpus, ça peut. Enfin,
même, oui, je pense bon, que même si c'est pas français, c'est intéressant à regarder. Alors, dans ce sens-là.
C'est vrai qu'il y a un problème quand on travaille sur ce genre de choses, c'est que c'est pas des albums qui sont très facilement disponibles. Donc c'est même quand on les trouve, quand on sait que ça existe, on a du mal à les trouver. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse effectivement. Faites remonter si vous connaissez des BD, n'hésitez pas.
Ceux-là, ils se trouvent assez facilement, je crois.
Ouais, je pense aussi.
Locas.
Et c'est Jaime
Hernandez.
Voilà.
Je note. Merci.
Et du coup, ça induisait ma question suivante. Est-ce qu'il y a une spécificité française dans ce domaine-là, ou est-ce que tous les clichés sont partout pareils?
J'ai pas l'impression qu'il y ait une spécificité française. Hein. À mon avis, c'est quelque chose d'assez répandu, ce genre de vision stéréotypée, à vrai dire.
Notre question, est-ce que, qu'en est-il de la production par des femmes de ce genre de BD? Est-ce que, je sais pas, par rapport, on va prendre du coup les 40 dernières années, est-ce qu'il y en a de plus en plus? Est-ce qu'il y a des noms qui ont été oubliés? Je sais que moi, il me semble que dans la musique, en tout cas, il y a des noms qui ont été effacés puis qui sont ressurgis grâce à des femmes aussi. Est-ce que c'est un peu le même processus en BD? Et voilà, quelle est la proportion de femmes qui écrivent par rapport à avant? Si tu sais.
Alors, en général, dans la BD, il y a de plus en plus de femmes, effectivement, qui en font, mais elles ont du mal à arriver sur le devant de la scène. Et c'est justement ce que le collectif de créatrices de bande dessinée a essayé de prouver en demandant aux créatrices de BD de s'inscrire pour pouvoir dire, mais vous voyez, la défense du Festival d'Angoulême de 2016 était scandaleuse, parce qu'elle disait, non, mais notre liste de nominés représente la bande dessinée telle qu'elle est. Et les créatrices ont dit, mais non, c'est pas possible, vous pouvez pas dire 30 hommes, 0 femmes. Il y a quand même des femmes qui produisent de la BD, et de la BD d'excellente qualité. Donc dans la BD en général, il y a de plus en plus de femmes, mais elles ont du mal à obtenir une visibilité aussi grande que leurs collègues masculins, notamment en raison du verrouillage de certaines institutions comme ça. Moi, j'ai l'impression quand même qu'avec la diffusion de plateformes internet et tout ça, les jeunes créatrices ont la possibilité de faire connaître leur travail. Alors, c'est pas forcément à très grande échelle, mais elles arrivent quand même à se faire connaître. Et cette petite BD-là a eu pas mal de commentaires. Enfin, ça a eu un petit succès d'estime.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des maisons d'édition féministes ou qui promeuvent voilà, un truc un peu égalitaire ?
Alors, je ne sais pas s'il y a des maisons d'édition féministes, c'est une bonne question, il faudrait que je cherche. Certainement que ça existe, je sais que dans certaines maisons d'édition un peu indépendantes, il y a des collectifs de BD réservés aux femmes, ce qui hérisse le poil des créatrices, parce qu'elles disent « mais on ne veut pas faire de la BD de filles ». On veut faire de la BD, point. Donc ça existe, mais c'est un peu
C'est toujours le même problème. Mais bon, c'est une question qui se pose quand même, parce que si on n'y arrive pas, il faut passer par des moyens.
C'est ça. Ouais.
Est-ce que les gens ont des questions dans la salle ?
Allez, Monique.
Peut-être une petite question. Je me demande si l'expression des Riot Girls, c'est pas davantage diffusée sur les fanzines. Peut-être c'est ça aussi, le matériau a pu se décliner davantage sur des fanzines que sur des BD, enfin, en même temps, quelle est la frontière, enfin, est-ce que vous avez aussi travaillé sur les fanzines ou est-ce que c'est la BD spécifiquement, enfin voilà. Alors, il y a peut-être plus de traces sur des fanzines, il me semble.
Ah oui, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses dans les fanzines, tout à fait. Pour l'instant, moi, comme je vous dis, c'est un champ de recherche que je viens tout juste d'ouvrir, donc je travaille sur la BD d'abord parce que ça n'a pas été fait, et puis parce que c'est plus facile, parce que il faut avoir les sources. Les fanzines, l'accès aux sources est relativement compliqué.
Alors je te l'ai signalé, mais dans les tranches de vie de Lozier, dès 77, il y a la tranche de vie punk. Hein, donc 77, on est au cœur du mouvement où on voit. Alors c'est intéressant parce qu'on voit apparaître la figure féminine, masculine. Enfin, il n'y a pas d'invisibilisation justement. Et on est. Alors on n'a pas eu le temps de le montrer avec Solveig. On est sur ce premier processus du punk qui est l'enlaidissement en fait. Et c'est très intéressant de regarder comment la question de genre peut être lue au prisme de ce type de. Voilà, le punk, c'est d'abord sans les dire. Mais les garçons et les filles, on voit bien cette bande circuler. Donc c'est juste une. Puisqu'il faut bien délimiter le corpus, ça commence très tôt, en fait, cette histoire de rapport entre le punk et la BD. Quoi. Voilà, c'était juste une remarque.
Et il y a certainement une évolution aussi, on en discutait justement hier, avec des différentes périodes.
C'est ça.
La BD a certainement collé aussi à l'évolution de la place des femmes dans le punk.
Oui, tout à fait, je pense, également. Ça reste à prouver, mais...
C'est juste un petit commentaire général. D'abord, le parallèle, effectivement, entre le punk et la BD, même si c'est plus qu'un parallèle, c'est la BD punk, mais sur l'invisibilisation, non pas des femmes, mais même de la question féministe, en fait. C'est-à-dire que je pense que c'est plus du domaine de l'impensé qu'une volonté d'être macho ou je sais pas quoi. D'abord, dans la BD, effectivement, même les auteurs les plus renommés, souvent, c'est consternant de... non, comment dire, sensibilité à ça. Enfin, la femme est toujours une espèce d'idéal complètement tordu de la femme objet, etc. Et rien d'autre. Et chez les punks, c'est vraiment effectivement tout le thème de la journée, quelque chose qui est aussi du domaine de l'impensée. Le punk remet en question tout un tas de clichés ou d'ordres établis. Pas celui-là, mais les punkettes non plus, la plupart du temps aussi. Elles rentrent très bien dans cette image-là. Et du coup, je me demande si, est-ce que tu as mis en exergue là, au Festival d'Angoulême, si on peut parler vraiment de verrouillage ou de politique délibérément masculiniste ou je ne sais pas quoi, mais si ce n'est pas encore pire, mais plutôt, ma question, ça serait plutôt, est-ce qu'il y a une spécificité de ce machisme, ou je ne sais pas comment on l'appellerait, propre à la BD, à une culture geek un peu, etc., ou est-ce que c'est le même type d'invisibilisation ou de non-réflexivité par rapport à la place des femmes et des auteurs femmes ? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique dans cette culture-là ou est-ce que vraiment c'est la même chose qu'à l'Assemblée nationale ou dans l'enseignement supérieur, par exemple, où plus on monte en grade et moins il y a de femmes, effectivement.
Oui, c'est vraiment intéressant, justement, cette question, parce qu'au départ, on pourrait voir, comme d'ailleurs l'a dessiné Florence Sestac, hein, que juste les organisateurs du festival, enfin les jurés du Grand Prix, n'ont pas pensé. Voilà, effectivement, ils ne s'en sont pas rendus compte. Ce qui est vraiment, par contre, marquant, c'est la réponse qu'ils ont faite au collectif de créatrices de bande dessinée, qui était atterrante de bêtises, quoi. Il y a eu... son nom m'échappe, mais le président du festival qui a dit oui, non, mais c'est vrai, après tout, on pourrait imaginer que le Grand Prix récompense aussi des femmes, pourquoi pas. Enfin, il a répondu avec un mépris ahurissant en disant non, mais les créatrices, oui, elles dessinent dans leur coin, mais enfin, elles jouent pas dans la cour des grands. Donc, c'est pour ça que, en réalité, je pense que c'est plutôt une question de génération. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit les créatrices de BD Égalité, la plupart des témoignages disent visiblement les jeunes générations, et des gens comme Riyad Satouf qui a été le premier à mettre le point sur le problème, les jeunes générations sont plus conscientes que les femmes ont une place légitime. C'est visiblement plutôt les anciens, ceux qui eux-mêmes ont eu du mal à voir légitimer leur pratique artistique au sein de la BD, qui opère ce verrouillage, j'ai l'impression. Mais encore une fois, c'est un sujet sur lequel je commence tout juste à réfléchir. Je ne veux pas être catégorique.
Simon Leroulé.
Oui, merci pour ta présentation. Moi, j'avais une question aussi, pour avoir lu pas mal de bandes dessinées plutôt féministes, pour le coup, américaines, issues de la scène punk DIY. On se rend compte qu'il y a une différence, par exemple, entre quelqu'un de la BD Do It Yourself comme Comet Bus, qui va parler vachement de musique, en fait. Alors que les punks féministes vont plutôt parler de la vie quotidienne autour de tout ça. Et est-ce que tu as remarqué dans les corpus français aussi cette différenciation-là ? C'est-à-dire comment finalement, parce qu'il y a des formes de féminisation de la domination qui sont nécessaires aussi pour survivre dans ces milieux qui sont sujets à la domination masculine, les femmes vont rendre ça visible finalement aussi en montrant des scènes de la vie quotidienne plutôt que justement des choses proprement liées à la musique. La musique devient finalement l'espèce de point d'entrée, mais ce n'est pas ce qui est montré. Est-ce que c'est la même chose sur les bandes dessinées françaises que je connais un peu moins ?
Oui, j'ai l'impression. J'ai l'impression d'ailleurs, celle-là, la bande dessinée de Freaks, parle très peu de musique, à vrai dire. J'ai montré un extrait de concert où on voit un personnage qui chante une chanson des Casualties, et puis on sait qu'elle se rend à une punk rave party, et c'est tout. La musique apparaît pas autrement. Donc oui, je pense que ça existe aussi tout à fait dans la BD française. Même chose, le fait de diffuser une BD avec un CD à écouter ou avec une playlist, ce qui se fait dans la BD punk assez fréquemment, je ne l'ai pas trouvé dans des BD dessinées par des créatrices. Mais encore une fois, le corpus que j'ai étudié est très petit. Donc,
du coup, c'est un peu dangereux ce truc, parce que c'est finalement reproduire à nouveau... Oui, c'est bien de le visibiliser, mais ça réinscrit les meufs dans le quotidien, comment on fait la tambouille, etc. Enfin bon, pour faire simple, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, ça veut dire qu'elles ne sont pas expertes au niveau musique, etc. Enfin, bon, mais c'est encore une fois, c'est une remarque, enfin, ça n'est pas forcément un truc, mais...
Ben c'est un vrai questionnement, en fait. Excuse-moi, Caroline. On n'a pas eu le temps, mais parce qu'on n'a pas pu faire notre com, mais c'est ce qu'on montre aussi, c'est que la réalité dans les rôles sexués sur cette scène-là, c'est qu'aussi... En gros, hein, je fais court, les nanas font pas de musique, ou très peu. Et depuis 40 ans, et alors quand elles en font, c'est sur des postes stéréotypés. Hein, ça va du chant, éventuellement du clavier, jusqu'à la basse. Mais,
la basse est voilà. Instrument plus doux, plus féminin.
Donc, sauf si on pense que la BD peut créer un imaginaire par rapport à ces questions-là, qui peut être éventuellement revendicatif, mais si la BD est supposée reproduire une forme de réalité, ben oui, on retombe sur des choses extrêmement stéréotypées, où les mecs font la musique, hein, et les nanas font la tambouille. Je le dis un peu violemment, mais depuis 40 ans, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Et
du coup, je pense qu'il faut... peut-être penser bien en amont, quoi. C'est-à-dire que c'est aussi le reflet de la manière dont elles ont été sociabilisées. Enfin, il y a un truc qui est hyper intéressant à regarder. C'est un docu sur les Girls Rock Camps, qui sont des espèces de colos de vacances sur une semaine pour les jeunes filles qui ont entre, je crois, 6 et 16 ans, ou quelque chose comme ça, pour leur apprendre à jouer d'un instrument, et plus précisément à jouer en groupe. Et à jouer, à prendre confiance. Il y a aussi des ateliers d'autodéfense, de cours sur le féminisme, enfin les BABA. Et ce qui est super intéressant, c'est de voir leur discours. Enfin, il y avait une des filles qui donnait des cours là-bas, ou je sais plus, enfin, qui disait voilà, qu'elle avait posé la question à un petit garçon de. Non, qu'elle avait dit à une jeune fille que ce qu'elle faisait, c'était super. Et la jeune fille, elle fait ah bon, vraiment, c'est sûr. Elle avait posé la même question à un jeune garçon qui avait dit mais oui, je sais. Enfin, et c'est aussi ça, en fait, en amont, il y a cette manière dont les jeunes filles sont sociabilisées et qui du coup ont plein d'impact après sur, enfin bon, je suis allée un peu loin peut-être sur voilà, mais ça me paraît aussi une question à creuser, enfin.
Et par rapport à ce que tu disais Luc, c'est la même chose en BD en fait, quand les créatrices vont à Angoulême, on dit c'est vous l'attachée de presse d'un tel, ben non, je suis la dessinatrice de tel album, enfin elles sont aussi cantonnées dans des rôles secondaires.
Ouais. Une double forme de domination, on est bien d'accord. Estelle.
Pas du tout féminin. À côté, enfin, quand on fréquente un tout petit peu des librairies de BD, que ce soit Bulle en Tête ou des librairies spécialisées BD, il y a pas de. Enfin, si on parle un petit peu avec les libraires de bande dessinée, on peut aussi s'interroger sur le lectorat. Quand tu interroges des auteurs femmes, des illustratrices ou des auteurs que ce soit en jeunesse ou en roman graphique, c'est quand les romans graphiques parlent de femmes qui sont destinés aux femmes, et le lectorat de bande dessinée me semble déjà être très masculin, donc après à voir aussi peut-être dans tes enquêtes de voir un petit peu cette destinée des ouvrages, parce que je pense qu'il y a aussi toute une. Si ça parle de mecs, c'est aussi destiné à un lectorat très très masculin, en bande dessinée tout particulièrement, plus que. Donc à faire le lien aussi sur cette histoire entre punk et BD sur le lectorat masculin, je pense.
Oui, il y a eu une enquête commanditée par le ministère en 2012 qui montre effectivement. Voilà, que,
ça fait référence voilà. À ça,
oui. Oui, c'est vrai, le lectorat est principalement masculin, mais ça aussi, c'est en train d'évoluer.
Moi, j'avais juste une petite question, parce qu'évidemment, sur la question du genre, c'est pas seulement la question du féminisme ou de la domination masculine, mais on a évoqué la question des modèles de masculinité ou de féminité hégémonique. Donc, en fait, par exemple, sur la question de l'homosexualité ou d'autres... Bon, on en est où au niveau de la BD? Parce que ça peut pas se réduire à garçon-fille, vers la question du genre. On est bien d'accord. Donc... comment le punk est-il ou non un prisme dans la BD pour lire ce type de construction des identités? Ça apparaît ou pas?
Enfin, j'ai l'impression que ça apparaît en creux quand on voit le personnage de Gisèle là dans Le Renard.
Oui. C'est pour ça que je te pose
la question. Voilà, c'est pas dit, mais elle est clairement présentée comme une lesbienne de caricature.
C'est ça.
Donc c'est ça. Même dans une BD punk, ouais. c'est pas très ouvert, quoi.
Ouais.
On prétend pas que la scène punk soit très ouverte non plus, hein. Non, mais
alors,
en fait...
ouais, mais c'est toute ambiguïté. Et ce chantier-là, il est fondamental parce que on imagine toujours qu'il y a une rébellion punk. Elle existe au départ, mais qu'est-ce qu'elle devient sur 40 ans? Ben, la vraie question, c'est de savoir si elle participe pas à reconstruire ces normes, voire à les accentuer parfois. Hein. Donc, je trouve que ton prisme de lecture est quand même très très intéressant. Bon, c'est juste une remarque en passant.
La BD queer, j'ai juste découvert hier, dans le cadre de la préparation de la journée, qu'Olivia Clavel, justement, avec la création de son alter ego télé, qui fait précisément écho à l'alter ego de Duchamp, qui problématisait les questions entre masse et genre, peut permettre aussi de poser cette question-là, au-delà de la polarisation sexuée, du queer. Et elle est lue actuellement par les historiens de la BD américains comme l'une des seules, peut-être avec Macho Girl en 80, à poser cette question de l'indéterminé, qui est précisément au cœur du queer, selon Butler et compagnie. Donc je voulais juste...
Merci Caroline.